Chers frères et sœurs, je vais d'abord dire un petit mot pour les enfants. Les enfants, la fête de la Toussaint, c'est d'abord la fête de tous ceux qui, aujourd'hui, sont déjà dans la joie de Dieu et dans la paix éternelle. Ils ont accompli leur vie d'homme en se mettant à la suite du Christ et ils se sont laissés former, transformer par Jésus, par l'amour de Dieu. Ils ont découvert Dieu comme un Père. Peut-être irez-vous tout à l'heure au cimetière pour voir la tombe de vos ancêtres, des personnes que vous avez pu connaître ou dont on vous parlera. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire, mais dans tous les cas, demandez à vos parents un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qui est-ce qu'ils ont été, comment ils ont aimé, comment ils se sont donnés dans leur vie et comment ils ont eu une certaine foi, quelle a été leur espérance. Comment est-ce qu'ils ont été transformés par l'amour de Dieu? Et puis après, vous pourrez vous demander personnellement, qu'est-ce que Jésus désire pour moi? Comment est-ce que je vais marcher sur sa trace? Nous avons entendu dans les Béatitudes, en fait, le chemin de vie que Jésus nous propose, il le propose au début de sa prédication. Et puis il va dire, il ne va pas le dire, mais c'est cela qu'on revoit, pendant trois ans, il va évangéliser, il va parler au peuple juifs à son époque, et il va leur parler, il va leur dire voilà. Et en fait, ce que l'on peut voir quand on lit les évangiles, c'est en fait que ce qu'il propose comme chemin dans ces 8 béatitudes, c'est le chemin que Jésus lui-même a parcouru. Et du coup, vous pouvez vous dire, c'est moi, je veux suivre Jésus, et bien qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un artisan de paix? Comment est-ce que je suis celui qui fait la paix autour de moi, dans votre vie de famille, dans votre vie à l'école, un peu partout où vous vivez? Comment je vois que je suis là pour faire la paix? Comment est-ce que je peux aussi me dire que si je suis doux, quelle est la douceur de Jésus? La douceur de Jésus qui permettait aux personnes de s'approcher de lui, même aux plus grands pécheurs, et de savoir qu'auprès de Jésus, elles trouveront la consolation de savoir que Dieu veut leur pardonner leurs péchés. C'est aussi la dimension de la miséricorde qui est là présente. De savoir que rien, aucun mal est si grand que Dieu ne puisse pas donner son pardon à l'homme qui découvre le mal qu'il a pu faire et qui se tourne vers Dieu en lui disant « Seigneur, pardonne-moi ». Eh bien, c'est pareil. Vous aussi, soyez des gens qui pardonnent, des gens qui sont capables d'ouvrir votre cœur à la misère de l'homme qui a pu faire ce péché-là et qui lui dit à ces personnes-là « Eh bien, Dieu te pardonne et je te pardonne aussi ce mal que tu as pu faire ». Voilà, c'est toutes ces dimensions en fait de notre vie quotidienne qui peuvent être mises sous le regard de Jésus. On peut chercher, voir comment est-ce que Jésus nous invite à transformer notre vie, et alors petit à petit, nous marchons vers lui. Alors, je vous invite, les enfants, à vraiment essayer de mieux comprendre ce qu'ont vécu vos ancêtres, comment est-ce que la foi chrétienne qu'ils ont pu recevoir, s'ils étaient chrétiens, a pu marquer leur vie, et puis à vous dire comment est-ce que vous, aujourd'hui aussi, Jésus vous attend, vous aurez une mission à accomplir, et bien cette mission, c'est à vous de petit à petit vous transformer pour la vivre. Voilà, pour les plus grands maintenant. En célébrant cette fête dans les circonstances que nous vivons en ce moment, eh bien, cette fête nous permet de redonner du sens et de nous revenir à l'essentiel. Jésus, sauveur des hommes, et à la victoire totale du Christ. Célébrer la Toussaint, c'est célébrer le paradis, la vie éternelle à laquelle Dieu nous attend, et cette victoire du Christ sur tout mal, sur tout ce qui détruit l'homme. C'est alors la possibilité d'un monde de paix, d'un monde réconcilié que nous pouvons envisager et que nous désirons voir advenir. Ceci n'est pas une utopie, mais c'est une promesse, un don que Dieu désire nous faire et que nous avons du coup à demander, à accueillir. Cela se fonde sur un témoignage, le témoignage crédible de la vie de Jésus qui s'est donné par amour pour les hommes, qui a donné sa vie et qui, en donnant sa vie, eh bien, a marqué, a témoigné de l'amour de Dieu. Tous les saints ont, un jour, clairement ou mystérieusement, rencontré le visage aimant de ce Christ qui leur montrait Dieu comme un Père. Tous ont alors abandonné, ils ont lâché loin derrière eux leurs égoïsmes, leurs peurs, la violence ou la jalousie qui pouvaient être tapis dans leur cœur. Ils se sont engagés alors à la suite du Christ. Cette vie éternelle, bienheureuse, est ainsi d'abord un don de Dieu, un cadeau que Dieu veut nous faire. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Vivre de cette vie éternelle, c'est se laisser purifier, transformer, vouloir et accepter que la relation que j'engage avec Dieu me fasse changer de façon de voir, me révèle les limites de mon cœur et m'invite à demander pardon à Dieu, demander pardon aux autres hommes. Ce sang de l'agneau, c'est celui de Jésus qui a versé son sang sur la croix, et nous le retrouvons à chaque Eucharistie, où de nouveau Jésus veut nous unir plus profondément à son offrande. Venir à la messe, c'est ainsi lever les yeux vers celui qui a versé son sang par amour pour nous, parce qu'il nous aimait. Dans sa mort et dans sa résurrection, il a bousculé toute limite de l'homme, toute barrière dans sa vie, jusqu'à celle de la mort. Souvenons-nous des paroles de l'archange Gabriel à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu, et c'est cela notre espérance. » Rien ainsi de ce qui nous paraît misère, contrainte ou décrépitude n'est ultime pour l'homme. Mais l'homme est toujours plus grand parce qu'il est toujours capable de répondre à l'amour de Dieu par l'amour pour Dieu et pour le prochain, comme l'évangile de dimanche dernier nous appelait à le vivre. Ainsi donc, cette grande souffrance de ne pas pouvoir, dans cet éloignement de la messe, communier d'une façon aussi incarnée au corps et au sang de Jésus, eh bien nous aurons quand même à vivre du coup une certaine union à Dieu, toujours possible dans toutes les circonstances. Ainsi, je vous invite, chers frères et sœurs, à redécouvrir chaque jour eh bien, comment est-ce que Dieu se donne à nous à faire l'effort, à prendre la décision de peut-être trouver une lecture priante de la Bible, faire un peu plus d'oraison silencieuse, venir visiter les églises qui seront ouvertes autant que possible ou prier en famille. Il y a beaucoup de moyens qui nous permettront de nous approcher du Seigneur chaque instant et de venir participer, nous unir, communier à sa vie. Et puis cette vie éternelle nous apparaît aussi comme un chemin qui, pour l'homme aujourd'hui, est déjà entamé. La vie éternelle, ce n'est pas simplement l'après la mort. La vie éternelle, c'est le don que Dieu nous fait dans le baptême. Et tous baptisés, eh bien, depuis ce moment où Dieu est venu habiter dans notre cœur, nous sommes participants de cette vie nouvelle, de cette victoire du Christ sur la mort dans sa résurrection. Comme nous l'avons entendu, le chemin à la suite du Christ est paradoxal. Il lie cette union à Dieu et le mystère de la croix. Ce chemin, aujourd'hui, pour nous, va se poursuivre d'une façon particulière. Dans ce temps de confinement, blessé par la violence de l'homme, par les incertitudes aussi, sur la capacité à dignement accompagner et soigner toute personne malade. Ils viennent de la grande épreuve, nous disait le livre de l'Apocalypse, et c'est une réalité. Toute vie humaine est toujours marquée par le mystère de la croix, habitée par la certitude de sa victoire. Ce chemin aujourd'hui, eh bien, il va passer d'abord par notre devoir d'État. Qu'est-ce que Dieu, dans ce que je suis aujourd'hui dans le monde, attend de moi pour les autres? De quoi la société a-t-elle besoin dans ce que je suis? Et alors nous aurons à nous y attacher fermement, à nous engager à suivre fidèlement ce devoir d'État où Dieu nous attend, qui correspond à la mission que Dieu nous confie dans ce monde. Et puis à ne pas oublier non plus la charité fraternelle, la communion conviviale, à penser aux autres, selon les possibilités du moment, à compatir et à être attentif. Aller vers, c'est un des mots-clés de la pastorale du diocèse. Et nous aurons à la vivre peut-être avec une certaine distance par charité, mais nous aurons à la vivre toujours. Chaque jour, nous pouvons nous demander eh bien, vers qui je suis allé, comment je peux aller vers une personne nouvelle et essayer de découvrir, de la rencontrer en vérité. Et puis je vous invite, chers frères et sœurs, à le vivre aussi dans une offrande de vous-même, à vous consacrer pour tel ou tel corps de personne, selon ce que vous portez en vous. Avoir conscience ainsi de tout ce que vous portez, tout ce que vous vivez, vécu dans la charité, donné à Dieu, rayonne largement dans le monde par le mystère de la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, et puis chaque jour, essayez de peut-être fidèlement dire au Seigneur, cet effort pour être fidèle à mon devoir d'État, je désire qu'elle aide tel type de personne, tel corps de métier. Alors nous, prêtres, célébrant, offrant chaque jour le corps et le sang du Christ, nous unirons aussi, nous offrirons cette offrande de vous-même, et cela deviendra participation au sacrifice d'amour du Christ. Alors nous goûterons, nous ferons l'expérience de cette grande force de la communion ecclésiale qui porte le monde, qui communie à ses souffrances et qui tourne ce monde vers le Père. Oui, chers frères et sœurs, c'est ce chemin d'une recherche, de la recherche d'une union plus grande avec Dieu dans la prière personnelle, familiale. C'est ce chemin aussi qu'ensemble, eh bien, je désire que nous vivions, fidèles à notre place dans le monde, unis dans la charité fraternelle et conscients de notre rôle de chrétien, de participer à l'offrande du Christ pour le monde et de tourner le monde vers Dieu. Alors nous serons capables d'apporter l'espérance dans le monde, de communiquer la joie de savoir que dès maintenant, unis à la joie des saints, les cris de louange de nos liturgies sont les mêmes cris de louange qui résonneront dans les cieux. Oui, mettons notre confiance dans le Seigneur, n'oublions surtout pas sa victoire et préparons-nous surtout à servir humblement. Amen.